voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
L'avantage des thérapies alternatives est d'accompagner des personnes dans leur globalité. Ces thérapies prennent en considération les individus de façon holistique. Elles s'adressent tant au corps qu'à l'esprit. Tous les aspects des troubles, qu'ils soient d'ordre psychologique, physiologique, psychosomatique ou environnemental, sont pris en considération par ces médecines intemporelles. Les thérapies alternatives sont naturelles. Elles permettent de diminuer la consommation de médicaments et de réduire les effets secondaires liés au traitement allopathique. Souvent, elles accompagnent le corps et l'esprit vers l'auto-guérison. La voix du Kaizen donne la parole à ces thérapeutes alternatifs qui complètent la médecine allopathique en nous permettant de soigner notre corps et parfois notre esprit. Patrick Chen est d'abord vétérinaire de formation, puis s'est intéressé à l'ostéopathie. Il est avant tout, comme il se définit, un guérisseur des corps et des esprits, un chanteur pratiquant pour soigner certains sons harmoniques ou encore des chants intuitifs libérateurs. La voix du Kaizen vous emmène à la rencontre de cet homme charismatique.
L'idée, c'est de montrer que l'être humain est souvent bien plus que ce qu'on peut penser, pas seulement un corps physique, on parle de vision holistique, avec moi Patrick Chen. Donc j'aimerais que tu commences peut-être par te présenter, nous dire qui tu es, et nous dire à quel moment tu t'es intéressé à l'être humain et à la thématique au domaine de la santé.
Oh, alors, thématique de la santé. À l'âge de 4 ans, je voulais être vétérinaire dans les Pyrénées. Ça tombe bien. J'ai eu mon diplôme de vétérinaire. Je suis venu m'installer dans les Pyrénées. Donc, j'ai fait vétérinaire pendant 10 ans. Pendant ce temps-là, à un moment donné, j'ai voulu apprendre l'ostéopathie parce que j'en avais marre que les rebouteux sachent faire des choses que je savais pas faire et que je comprenne pas. Et puis, ça fait maintenant presque 30 ans et je suis toujours dans cette thématique et même au-delà. J'ai donc d'abord soigné les animaux de manière classique, puis de manière de plus en plus alternative, on va dire. Et j'ai passé ensuite un diplôme d'ostéopathie humaine pour en savoir plus sur l'ostéopathie. Du coup, j'ai le diplôme et l'autorisation de soigner les humains. Et là, je soigne allègrement des humains ou des animaux, c'est pareil.
Ok, intéressant. Donc toi, t'es venu par l'animal, vétérinaire dans un premier temps. L'ostéopathie, j'aimerais que tu me donnes ta définition. Qu'est-ce que c'est qu'un ostéo? Qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie? Comment ça fonctionne?
L'ostéopathie, c'est à la fois c'est simple et c'est compliqué. C'est avec des manipulations manuelles arriver à rééquilibrer le corps. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, sachant qu'après, il y a des familles de techniques, il y a des familles d'ostéopathie, chacun ayant la sienne, pensant qu'eux, etc. Mais pour simplifier, on peut dire une chose, c'est que autant la médecine classique est partie sur le fait que dans le corps, il y a des réactions chimiques qui s'organisent et qui font bouillir la marmite à l'intérieur du corps, et ça nous amène forcément vers les laboratoires pharmaceutiques et cette médecine-là, autant l'ostéopathie est partie sur une médecine physique qui dit voilà, le corps il peut peut-être fonctionner avec sa chimie, mais il fonctionne bien que si physiquement tout le rapport de force qui s'exerce à l'intérieur est correct. Et en ça, c'est très juste, c'est-à-dire que si on vous dessine une cellule pour vous montrer quelque chose, on va vous dessiner un noyau, on va vous dessiner un cytoplasme, on va vous dessiner un liquide intercellulaire et avec des petits appareils de Golgi et compagnie, mais on va oublier une chose fondamentale systématiquement, c'est le cytosquelette. Le cytosquelette, c'est l'échafaudage de la cellule, et selon comme il est agencé, en fait, la cellule fonctionne ou fonctionne pas, et toutes les médecines manuelles vont fonctionner avec ce cytosquelette, qui, en le réarrangeant, vont modifier le fonctionnement des enzymes, qui va faire fonctionner la chimie du corps différemment. Et à partir de là, voilà, on a la dichotomie entre la médecine classique et puis toutes les médecines manuelles, dont l'ostéopathie. Le cytosquelette, c'est comme, il faut imaginer que la chimie, ça serait par exemple l'interaction qu'on a entre nous. On est deux molécules, on interagit, on fait de la chimie. Mais on ne peut faire de la chimie que si la pièce qui est là existe. Et si elle est réelle. Et en fait, la pièce dans une cellule, elle varie de taille. C'est un échafaudage de petites molécules qui sont de l'actine, de la myosine, de la tubuline, enfin tout un tas de noms comme ça, un peu bizarres, mais qui font vraiment l'échafaudage. Et si jamais l'échafaudage, il bouge en permanence. Et si jamais la pièce se resserre, on va plus pouvoir avoir l'interaction normale qu'on doit avoir tous les deux, et donc la chimie se fera pas bien. Et le boulot de n'importe quel médecin manuel, ça va être justement de modifier cet échafaudage pour à nouveau faire de la place aux molécules qui font de la chimie. C'est simple, la prochaine fois que vous lirez un article où il sera question de du traitement des cancers, par exemple, dans des caissons hyperbares, ou en appliquant des pressions très fortes avec des tissus, etc. On fait fonctionner ce qu'on appelle la tenségrité des cellules, c'est-à-dire le fait que plus je mets de pression à une cellule, plus elle se liquéfie, et plus elle se liquéfie, et plus elle se détend, et plus elle devient molle. Voilà. Alors quand on fait sur des cancers, faut mettre des grosses pressions. Et effectivement, on constate qu'il y a des cancers qui réagissent à ça. Bon, bien sûr, faut que ce soit des cancers accessibles. On peut pas mettre de la pression sur un cancer dans le cerveau, mais sur un cancer cutané, on peut. Sur certains cancers du sein, ça a été essayé, etc. Il y a des débuts de résultats. Il y a des expériences sur les embryons où, en mettant de la pression sur telle partie de l'embryon, on déforme complètement l'embryon, etc., etc. La pression, la tension font partie de l'organisation du corps. Et en fait, quel que soit ce qu'on fait en ostéopathie, on s'aperçoit que finalement c'est ça qu'on modifie. Et cette architecture-là, cette façon-là de fonctionner, on l'a gardée. Quand j'ai mal au dos, on dit je suis tendu. Et c'est pas pour rien, je suis tendu. Et là, mon dos fonctionne moins bien. Il me fait mal, c'est une chose, mais surtout, il fonctionne moins bien. Et si c'est pas le dos qui est tendu, mais un organe, eh ben, il va fonctionner moins bien. Et dans ce moins bien, il y a des milliers de choses, hormonales, circulatoires, nerveuses, etc. Mais si je le ramollis, il va fonctionner mieux. Et dans ce mieux, il y a plein de guérisons possibles.
Et comment, toi, tu vas t'y prendre? Déjà, quels vont être les gens qui vont franchir cette porte? Qui va venir te voir? Avec quel type de problématique? Et comment est-ce que tu vas t'y prendre?
Alors, il se trouve que dans mon ostéopathie, j'ai intégré à fond cette notion de tenségrité, de cytosquelette. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ce qu'est la tenségrité, qui est un problème, qui est une notion d'architecture en fait. Si on peut faire des immeubles qui font un kilomètre de haut maintenant, c'est parce qu'ils savent manier la tenségrité, c'est-à-dire la répartition des forces dans les systèmes architecturaux pour pouvoir avoir quelque chose à la fois sans trop de poids et à la fois quelque chose qui résiste au tremblement de terre, qui résiste au vent et qui va se déformer avec le vent et revenir, le corps est fait pareil. Et donc, en fait, qu'est-ce qui fait modifier le cytosquelette? C'est les vibrations. Et on s'aperçoit quand en ostéopathie dite structurelle, c'est-à-dire avec des vraies manipulations où on fait craquer les vertèbres, etc., en fait, on met des chocs vibratoires aussi. Donc, il y a aussi ça qui fonctionne. Et on peut aller au bout du système, à savoir qu'un système en tenségrité, en fait, c'est comme un bol tibétain, il a une fréquence de résonance. C'est quoi la fréquence de résonance? C'est la fréquence sur laquelle on amène un système physique qui fait que l'énergie qu'on lui amène avec cette fréquence, au lieu de se dissiper au fur et à mesure qu'on l'amène, le système peut pas la dissiper, donc il la garde. Donc à chaque tour de la fréquence sinusoïdale, on amène un peu d'énergie, on finit par avoir un bol tibétain qui se met à chanter, on a un bol de cristal qui se met à chanter puis qui explose, etc. Et les cellules, c'est exactement pareil. Il faut leur amener la bonne résonance, et à ce moment-là, elles se mettent à vibrer, et plouf, elles se détendent. Et donc je vais jusqu'au bout de ça, c'est-à-dire que maintenant je fais du chant diphonique en soignant. Avec la main, je sens la vibration que je fais, je change la fréquence pour avoir la meilleure vibration. Et dès que j'ai la bonne vibration, je sens le tissu qui se ramollit sous ma main. Éventuellement, je l'aide un petit peu avec une pichenette, mais en fait, je passe mon temps à parcourir un corps depuis les pieds jusqu'à la tête pour trouver ces zones où c'est tendu et puis les détendre.
À travers les mains, donc la pression, mais aussi le son.
La pression et le son. Ouais. En fait, cet aspect vibratoire où on fait entrer en résonance. Okay. Et donc, je dis toujours que je débloque plus une vertèbre, je déplie un corps, en fait.
Et donc, l'ostéopathie va essentiellement intervenir sur le squelette, sur le côté physique de l'être.
Ce qu'il va bien falloir faire, c'est que je ne parle pas au nom de l'ostéopathie, parce qu'au bout de presque 30 ans, mon ostéopathie, c'est celle que je vous donne. Je peux parler de l'ostéopathie en général. Oui, en général, on vient chez l'ostéopathe parce qu'on a un problème de dos, parce qu'on a mal au dos, etc. Il y a deux vertèbres qui coincent et qui font mal. Mais sachant ce que je viens de dire, en fait, C'est juste pas le problème du tout. Si je prends cette rose des vents et puis que je me l'appuie sur la main, j'ai très mal à la main, mais mon problème, c'est pas du tout la main, c'est pas du tout la rose des vents. Mon problème, c'est l'autre main qui appuie sur la rose des vents, qui appuie sur la main et avec la table qui est dessous. Donc, si je veux régler mon problème, soit je m'occupe de la main, soit je m'occupe de la rose des vents, soit je m'occupe de la deuxième main. Et là, j'ai plus de problème du tout. D'accord. Et donc ça fait remonter le truc bien plus haut. Il faut considérer que, faut imaginer que le tissu le plus important du corps, en fait, c'est le fascia. C'est le tissu qu'on a même dont on s'est même pas occupé limite la plupart du temps. Maintenant, il y a des gens qui commencent à s'en occuper, mais c'est cet emballage-là. Il faut imaginer que c'est un sac avec des os à l'intérieur. Si le sac est trop serré, les os y sont coincés, ils font mal. Si je desserre le sac, les os se décoincent tout seuls. Donc, on parle plus, enfin, chez moi, on parle plus de vertèbres coincées, c'est pas la problématique. Un mal de lombaire, une sciatique, c'est forcément un bassin, c'est forcément une cheville, c'est forcément un problème dans l'épaule, c'est forcément un problème viscéral en même temps, qui font que c'est comme s'il y avait des cordes qui tiraient sur ces vertèbres-là ou qui les poussaient les unes contre les autres. Et à l'endroit où ça coince, c'est inutile de s'en occuper, limite. Il faut s'occuper de pourquoi la ligne de force de tout le corps converge vers là. Et après, les gens qui viennent me voir, ils viennent me voir pour des chevilles, pour des genoux, parce qu'ils dorment pas, parce qu'ils ont mal au foie, parce que, etc. Parce que, ok, les os, mais en fait, c'est toutes les cellules qui réagissent à ce genre de choses. Et dès que, en médecine, on n'a pas quelque chose de bien typé ou on sait vraiment quoi faire, eh bien, à ce moment-là, il faut essayer de débroussailler le truc. Et la pathologie, et il y a pas mal de pathologies chroniques qui vont répondre simplement parce qu'on a défait les cellules, elles fonctionnent différemment. Moi, je ne sais pas exactement ce qui se passe, j'arrive même pas à savoir tellement c'est complexe, même si maintenant je commence à avoir quelques notions de médecine, mais dans cet espace-là, il y a du mieux. Alors des fois, il y a 30% de mieux, et bien un tiers de mieux, c'est des fois une vie qui peut respirer. C'est aussi un tiers de mieux, c'est des fois un traitement qui marche mieux. Hein, ce qu'on constate aussi, c'est que parfois derrière des traitements ostéopathiques, on a des médicaments où on a besoin de diminuer la dose d'un tiers à peu près ou de moitié. Et voilà, déjà, des fois, ça suffit à arranger la vie des gens.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Tu vois une convergence entre la médecine allopathique et toutes les thérapies alternatives et holistiques?
Pour qu'il y ait convergence, il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de converger. C'est hyper problématique, enfin pour moi c'est vraiment un gros problème. C'est-à-dire que mon parcours de 30 ans de soins, vraiment j'ai voulu soigner tous les jours de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Chaque fois que j'ai pas compris quelque chose, j'ai essayé de voir pourquoi je comprends pas. Chaque fois qu'on comprend pas avec des concepts, il faut mettre des concepts plus larges. C'est des maths, hein. Si dans un ensemble j'ai pas ma solution, je prends un ensemble plus large et je comprends ce qu'il y avait dans cet ensemble-là. Et en biologie, on doit faire pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle chimie en médecine classique et puis on parle pas biophysique. On n'en parle pas. Ça n'existe pas. Et même si on amène le sujet, hein, par exemple, j'ai, à un moment donné, j'ai testé une mesure d'une spirale sur le chien, où on voit très bien la variation de la mesure entre avant et après une manip d'ostéo. On la voit même très bien entre avant et après un remède homéopathique. On a beau me faire 200 mesures et machin, etc. De toute façon, quand on envoie ça à Boiron pour lui dire « Tiens, on pourrait faire quelque chose », ils répondent pas. Quand on envoie ça au président de l'ordre des vétérinaires, il dit « Ça, c'est pas de la science », alors que c'en est pur jus. Je fais une hypothèse, je teste et je mesure et je tire des conclusions. Ça s'appelle de la science. Après, lui, il n'est pas de case pour le mettre dans son affaire. C'est autre chose, mais c'est de la science. C'est hypothèse, je teste et je conclue. Voilà, c'est tout. Donc à partir de là, on peut pas répondre ça. Et donc en permanence, on a cette espèce de mur, et ce mur, tous les gens qui font de la médecine alternative vous le diront, il existe, il est réel. Alors après, je vais pas m'étendre sur le pourquoi du mur, mais en l'occurrence, le fait est qu'il y a vraiment une incompréhension totale, quoi. Et c'est pas parce que je viens de ce milieu-là, je la comprends, cette incompréhension, je sais pourquoi elle est là, et elle est pas là pour des bonnes raisons, de mon point de vue, mais en tout cas, elle est là. Ça, c'est clair. Il y a plein de pathologies où j'aimerais après discuter avec les gens quand j'ai eu un résultat, discuter avec les gens qui en sont arrivés là où c'en était sans comprendre. Mais de toute façon, il n'y a pas de discussion possible. J'ai fait une revue sur l'ostéopathie depuis 15 ans. J'ai écrit des textes et des textes et des textes. Il y a une notion que j'appelle la force de traction médulaire qui vient d'un chirurgien de Barcelone qui opère des scolioses en coupant le phylum terminal. Ce chirurgien-là, ça fait 30 ans qu'il se bat pour sa méthode qui marche super bien pour plein de choses, Arnold Chiari et compagnie, des malformations terribles. Et il n'arrive pas à faire percer son idée, et l'idée ne perce pas, quoi, elle ne perce pas. Il y a un ostéopathe qui l'a reprise. Quand j'ai vu ça, j'ai compris certaines choses sur les pathologies des animaux. On s'est mis dans notre groupe, on est une trentaine, quarantaine, cinquantaine, à utiliser cette notion tous les jours et avec un bonheur extraordinaire. Encore ce matin, un chat qui faisait des crises, qui agitait la queue, qui essayait de se la mordre, etc. C'est vraiment la moelle épinière qui est trop tendue. Il suffit juste de passer le doigt pour voir les poils qui s'érigent. C'était caractéristique du truc. Il a suffi juste d'appuyer sur la queue, donc façon tenségrité, mettre de la pression pour fluidifier, donc de l'ostéopathie tissulaire façon Pierre Tricot par exemple. Et en l'occurrence, pouf, le chat s'est calmé tout seul, terminé, et puis ça va aller bien, les yeux ont changé, etc. Et puis je suis sûr que ça va aller bien. Avec le recul, c'est un cas très caractéristique. C'est comme s'il avait lu le livre du système. Mais cette notion-là, qui pour moi, avant d'être ostéopathique, elle est même médicale, hein, parce que quand la moelle est trop tendue, on peut avoir des crises d'épilepsie, on peut avoir des choses comme ça. Et bien, il n'y a pas moyen de la faire rentrer dans la médecine vétérinaire. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que j'écris dessus, ça fait 10 ans que j'ai à peu près 300 pages d'écrites sur ce truc-là, sur tout ce qu'on peut en voir cliniquement, sur tout ce que ça peut apporter, mais ça ne perce pas au-delà d'un petit cercle de gens qui veulent bien entendre qu'autre chose est possible. Mmh. Et celui qui ne veut pas entendre, il ne veut pas entendre. Quoi.
Et s'il n'y a pas convergence, est-ce qu'il y a une complémentarité quand même?
Après, la complémentarité, la plupart du temps, c'est les clients qui la font. C'est pas le corps médical. Summum pour moi tout de suite, c'est la discussion sur la vaccination. C'est quelque chose de fascinant, quoi. Dès qu'on fait la moindre critique, on est juste un anti-vaccin. Et pourtant, Dieu sait s'il y en a des critiques à faire sur la façon dont c'est fait, même pas le contenu scientifique de la chose. Et après, sur la façon dont distribuer les informations, dont elles sont tronquées, dont elles sont faussées. C'est fascinant, quoi. Il n'y a pas à être pour ou contre la vaccination. Il y a quand est-ce que la vaccination est bonne et quand est-ce qu'elle est mauvaise. Et quand on rentre dans « il faut en faire le maximum », c'est forcément pas bon. Et c'est plus de la science non plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et donc, effectivement, moi, je suis en recul par rapport à ce sujet de manière énorme. Mais parce que je n'arrive même plus à savoir, moi qui ai 16 ans d'études médicales, quand on me livre des informations, si c'est vrai ou si c'est faux. Je n'arrive plus à me faire la moindre idée sur ce qui est juste et ce qui n'est pas juste dans la vaccination.
Pourquoi est-ce qu'on l'impose si on sait que c'est une aberration?
Moi, c'est ce que je dis. Je ne sais pas si on le sait, tu vois. Et puis, il y a des gens qui pensent que ce n'en est pas une, forcément. Mais après, voilà, sujet brûlant. Voilà.
Je vais en revenir au lieu dans lequel on se trouve quand on arrive ici, quand on garde sa voiture, on voit des jardins, on voit une ferme. Tu me disais qu'il y a une école pas loin. Où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on y fait ici?
Alors, où est-ce qu'on est? On est dans un lieu où il y a des gens qui pensent que un corps, c'est pas seulement de la matière. Un corps, c'est aussi la notion avec laquelle je le dis, qui est une des notions possibles, hein, qui n'est pas la seule. C'est le champ de conscience. C'est comme s'il y avait un espèce d'aimant qui faisait un champ comme un aimant ferait un champ magnétique. Et dès qu'on verse du café sur ce champ-là, il se transforme en moi ou en toi, mais c'est le même café à la base. Et en l'occurrence, donc, c'est l'aimant qui est important. Et ce champ de conscience-là, ben, on apprend à s'en servir, à le faire réagir, on l'appelle comme ci, comme ça, on le fait réagir de telle façon, de telle façon, mais c'est l'étape du dessus du corps. Hein. Donc là, on est passé de la chimie à la biophysique, donc ça c'est l'ostéopathie, et puis au-delà, ben, il y a tout le champ de conscience qui fait bouger le système. Donc. Et ce corps-là, en fait, c'est le plus important, c'est nos deux champs de conscience qui entrent en contact tout de suite, plus que nos corps ou nos regards ou nos paroles. Et ce champ de conscience, il n'est pas propre à l'homme. Les animaux ont le même, n'importe quelle chose est vivante, un végétal, etc., a le même, et puis on va même au-delà avec les cailloux qui ont malgré tout une parcelle de conscience d'une manière ou d'une autre. Et notre idée à nous, c'est celle-là, c'est tout ce qui nous entoure là dans notre société construite sur le modèle de la pyramide, avec des gens au sommet et des gens en bas, et puis des animaux en bas, et puis voilà, donc même si on reprend l'histoire récente, des hommes qui commandent avec des esclaves, et puis des hommes et des femmes dessous, et puis des femmes et des enfants dont on disait qu'ils ne sentaient pas la douleur, etc. Enfin, cette espèce de pyramide qui va jusqu'au bout, où les animaux supérieurs, des animaux inférieurs, des végétaux dont on fait rien du tout, qui n'ont pas de conscience, etc. maintenant. Alors qu'en fait tout a une conscience, et donc l'idée c'est plutôt le cercle que la pyramide, quoi, qui apporte quelque chose, et on peut communiquer en plus avec ces consciences là de conscience à conscience, et là on commence à découvrir autre chose. Et donc après, ce que devient ce lieu, c'est ce que chacun en fait. Moi, j'apporte de l'ostéopathie, j'apporte du chant diphonique, j'apporte ma connaissance des animaux, j'apporte maintenant, je m'occupe beaucoup de plantes sauvages, parce que ce qui me fascine, c'est la façon dont on a perdu l'autonomie. C'est-à-dire qu'on a mis en santé, on a mis des experts entre nous et notre santé, et on attend d'eux qu'ils nous racontent tout ce qui se passe. Et en fait, stop. Parce que ces gens-là, ils peuvent se tromper, ils peuvent prendre une voix qui est une voix parmi d'autres voix, mais tant qu'ils pensent que c'est la voix, la seule voix, ils nous fatiguent. Mais s'ils pensaient encore qu'il y a plein de voix possibles, ben, ça serait super. Mais en l'occurrence, ils se mettent à décider à notre place de notre santé. Et donc, ça, c'est pas possible pour moi, c'est plus possible. Chaque fois qu'on me demande qu'est-ce que vous en pensez, alors si c'est un chien, on me dit docteur, sinon il faut pas me dire docteur, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense rien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, mais vous savez, vous avez l'expérience. Bien sûr que j'ai l'expérience, mais vous les connaissez, nos financiers, nos météorologues et tout ça, ils se plantent tout le temps, on est bien d'accord. Donc moi aussi, je me plante. Donc maintenant, c'est vous qui devez savoir. Et là, je suis assez couillon là-dessus de leur imposer de réfléchir. Moi, je veux pas vous dire tout. Je peux vous aider, je peux répondre à des questions, mais je peux pas décider pour vous ce qui doit se passer. C'est vous qui devez le faire.
Est-ce que tu as des pistes pour devenir autonome? Comment faire pour être en conscience? Qu'est-ce que tu as envie de dire à la masse?
Je veux pas l'appeler masse. C'est plein de petites cellules partout et plein de petites consciences partout qui crépitent et qui sont adorables, mais des fois un peu assombries ou un peu engluées. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Mais après, c'est à la fois très simple et à la fois très compliqué. C'est-à-dire qu'à chaque geste que je fais, c'est qu'est-ce que ce geste amène? Est-ce qu'il m'amène plus d'être pieds et poings liés à quelque chose, ou au contraire, est-ce qu'il m'amène de l'autonomie? Voilà, et puis c'est tout. Et après, qu'est-ce qu'on a besoin de respirer? Qu'est-ce qu'on a besoin, c'est de manger? Qu'est-ce qu'on a besoin, c'est de boire? Mais qu'est-ce que je fais pour ça? Qu'est-ce que je fais? Sachant que, par exemple, pour l'histoire des salades sauvages, il me faut un jardin de 20 mètres carrés pour arriver à me faire mes salades tous les jours, quoi, à la limite. Si je l'entretiens bien, j'ai 20 mètres carrés. Parce que ce qui dit sauvage dit pas je laisse pousser et je laisse faire. Parce qu'en ce moment, ce qui est le plus dangereux dans la nature, c'est l'homme. C'est-à-dire que j'ai un très bon copain qui mange tous les jours des herbes sauvages. La première fois que j'ai vu, il était empoisonné. Parce qu'il avait cueilli des herbes près d'un stade où il venait de désherber. Voilà. Et donc, c'est pas la nature qui l'a, c'est l'homme. Voilà. Et donc, les abeilles et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc l'autonomie, c'est tous les jours que ça se gagne. C'est je pense quelque chose, est-ce que je peux pas penser autrement? Voilà. C'est chaque fois se poser la question. Moi, je dis toujours que l'expérience la plus fascinante de ma vie, et pourtant j'ai connu des états de modifiés de conscience, des machins, des trucs comme ça, tout à fait naturels, sans drogue évidemment. Et la plus fascinante de ma vie, c'était j'étais à un stage justement d'une Amérindienne, et puis il y avait une Anglaise au petit déjeuner en face de moi. Et cette Anglaise-là, je la vois, elle se prend une tartine, et le pain, il était avec des trous partout, enfin, et je la vois se prendre le pot de confiture, le beurre, et je me dis, oh là là, on va rigoler là, parce que si elle met, ça va lui dégouliner sur la main, si elle met sur le beurre, ça va couler par terre, ça va être génial. Et là, ni une ni deux, je la vois, elle prend le beurre, et sur une face de la tartine, elle tartine, et en fait, elle bouge tous les trous. Très bien. Je me dis, là, on est dans la version, ça glisse par terre. Et je la vois qui retourne sa tartine, et qui met la confiture dans les trous. Et là, je fais la tartine à deux faces. Mais j'y avais pas pensé, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vois venir la problématique, je suis sûr qu'elle va se planter, et je ne suis incapable d'imaginer qu'il y a une possibilité qui s'appelle la tartine à deux faces, où le beurre est dessous et bouche les trous, et la confiture se met naturellement dans les trous sans couler. Appeler à penser autrement à chaque fois, à chaque instant, même au petit-déj, quoi.
Mais considérer qu'il y a d'autres possibles, donc élargir en fait son champ de vision sur chacun des actes qu'on pose dans son quotidien.
À chaque fois qu'on a un problème qui paraît insoluble, il faut augmenter d'une dimension la pensée du problème.
La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.